décryptage sur RFI.
Anne Corpet.
Les talibans l'avaient assuré en août dernier lorsqu'ils ont repris le pouvoir à Kaboul. Ils ne restreindraient pas les droits humains des Afghans, en particulier ceux des femmes. Une promesse bafouée. Les décrets visant à réduire les femmes à l'état d'objet domestique se sont accumulés au niveau national ou local. Interdiction d'aller à l'école, de prendre l'avion seul, de passer le permis de conduire, de travailler au contact des hommes, voire même d'aller au restaurant. Peu à peu, les Afghanes, qui avaient au cours des 20 dernières années reconquis une place dans l'espace public, en sont écartées, avec des conséquences dramatiques pour leur santé, leur bien-être, mais aussi pour l'économie du pays. Certaines tentent de résister, d'autres subissent, se tairent et rêvent de s'enfuir. Depuis le 7 mai, elles sont tenues de porter la burqa, cet habit couvrant tout le corps, tout le visage, ne laissant apparaître qu'un regard, souvent apeurés. Aujourd'hui, Décryptage s'attarde sur le retour aux enfers des Afghanes sous le joug des talibans. Et pour évoquer le sort des femmes en Afghanistan, nous sommes en studio avec vous, Belraïs Jafari. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes enseignante de langue persane à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Vous êtes afghane et vous avez trouvé un refuge en France grâce au programme national d'aide à l'accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil. Merci d'être avec nous. Et nous sommes au téléphone avec Julie Billot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève, auteur de Kabul Carnival, Gender Politics in Postwar Afghanistan. C'est publié à la presse de l'Université de Pennsylvanie, en 2015. Et avant de commencer, je voudrais vous faire écouter ceci. Ce qu'on entend, ce sont quelques dizaines de femmes qui protestaient le 10 mai dans les rues de Kaboul contre le retour de la burqa imposée 3 jours plus tôt par les talibans, avec des sanctions prévues pour les chefs de famille qui ne feraient pas respecter le nouveau règlement. Belraïs Jafari, ces femmes qui manifestent dans les rues de Kaboul, elles prennent des risques ?
Oui, bien sûr, elles prennent beaucoup de risques. Parce que déjà, donc les manifestations qui ont commencé dès la chute de Kaboul, plutôt dès le mois de septembre 2021, là-bas, donc à cette période, il y avait de plus en plus de femmes qui sortaient dans les grandes villes. Et après, il y avait beaucoup d'arrestations de ces femmes, de jeunes filles. Et quelques-unes ont été libérées et d'autres, donc il n'y a pas encore de nouvelles. Il y a beaucoup qui ont été, qui sont toujours arrêtées. Il y a aussi de plus en plus, il y a des reportages, donc des nouvelles de jeunes femmes qui se sont retrouvées mortes, par exemple à Kaboul, surtout à Mazar, au nord du pays, mais aussi à Herat. Donc ceux qui sortent vraiment, donc elles risquent vraiment donc leur vie.
Julie Billot, le retour de la burqa est un symbole très lourd vu d'Occident. Que représente ce vêtement en Afghanistan ?
Alors, c'est un vêtement qui a toujours existé. Alors, effectivement, là, c'est pas toutes les femmes qui portent la burqa. Généralement, elles commencent à la porter après le mariage. Donc, c'est un signe d'un certain statut. C'est un vêtement qui existe dans la région depuis toujours, avec les femmes des villes qui tendaient à ne plus trop la porter, surtout à Kaboul, ces dernières années, mais qui était encore assez prédominant dans le reste du pays. C'est un vêtement qui est devenu maintenant obligatoire pour les femmes. Donc c'est un signe fort, parce que c'était aussi une des mesures qu'ils avaient prises quand ils étaient arrivés au pouvoir au milieu des années 90, et qui avait retenu particulièrement l'attention de l'Occident, parce qu'effectivement, il s'agit d'un vêtement qui couvre l'entièreté du corps, et puis il y a cette grille devant les yeux qui empêche d'avoir une bonne vision. Donc c'est un vêtement qui est assez symbolique, surtout pour nous, mais je pense qu'en Afghanistan, il est beaucoup plus commun, effectivement.
Pour les jeunes femmes nées après la chute du premier régime taliban en 2002, ça reste néanmoins une nouvelle contrainte, souvent intolérable. On écoute Ferouza et son amie Shekeba. Leur témoignage a été recueilli à Herat il y a quelques jours par Sonia Ghezali. Herat, une ville considérée comme l'une des villes les plus libérales du pays.
Quand ils forcent les femmes à faire ceci, à faire cela, à porter tel vêtement, eh bien, ils nous enlèvent notre liberté. Et ça nous brise le cœur.
Je porte un masque parce que je suis obligée de le faire. Quand les talibans nous voyaient dans la rue, le visage découvert, ils nous punissaient. On ne le portait pas avant. C'est tellement difficile pour nous. Mais on n'a pas le choix.
Belrais Jafari, pardon, la décision d'imposer la burqa aux Afghanes éloigne encore un peu plus la possibilité que la communauté internationale reconnaisse le nouveau régime taliban. Pourtant, ses dirigeants ne cessent de le réclamer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'ils ont renoncé à cet objectif, à votre avis?
Les autorités... Les nouvelles autorités afghanes?
Oui.
Oui, en fait, je pense que donc, les talibans, comme ils ont besoin de la reconnaissance internationale, donc, et ils ont aussi besoin de l'aide internationale, donc ils ont essayé ces dernières années, mais aussi après, à la suite de leur reprise de pouvoir, de montrer une image un peu plus douce d'eux-mêmes. Et de répéter plusieurs fois qu'ils ne sont pas du tout contre les droits des femmes, mais les conditions qu'ils mettent, ça veut dire dans le cadre de la charia, donc ça montre bien que donc ce qu'ils cherchent, donc et là on voit que donc on parle de différents, par exemple, tendances chez les talibans, certains qui sont un peu plus modérés, si on peut le dire, que d'autres. Mais ce qu'on voit, c'est que maintenant, donc, il y a la tendance la plus rigoriste qui a dominé. Et juste pour ajouter que la burqa donc, existait en Afghanistan, mais ce n'était pas du tout courant dans tout le pays. C'était plutôt, ça existait plutôt dans le sud du pays et à l'est, la région Pashtoufane. Et dans d'autres régions... Même après le mariage, les femmes ne portaient pas la burqa avant, bien sûr, donc bien avant l'arrivée des talibans en 1996, qui ont imposé la burqa. Et quand ils sont partis, beaucoup de femmes, comme elles étaient habituées, donc elles ont gardé la burqa et puis beaucoup d'autres, normalement, qui l'ont enlevée.
Julie Billot, je vous pose également la question. Ces mesures, ça veut dire que les talibans arrivaient au pouvoir se fichent finalement d'être totalement isolés, ou alors est-ce qu'ils mettent ces mesures pour pouvoir ensuite en faire un instrument de négociation avec la communauté internationale?
Je ne sais pas, mais en tout cas, si on s'intéresse vraiment à la situation des femmes en Afghanistan, je pense qu'il ne faut pas associer uniquement la situation dans laquelle elles sont aujourd'hui avec l'arrivée des talibans. Dans les 20 dernières années, les femmes ont acquis sur le papier quelques droits, le droit notamment d'être éduquée, d'aller à l'école, de travailler. Mais pour la plupart des femmes de ce pays, notamment celles des campagnes, ces droits, elles n'en ont jamais joui. Elles n'ont jamais goûté à ces libertés-là. Donc il y a une sorte de dissonance cognitive, si vous voulez, entre les images qui ont été véhiculées par la presse internationale au cours de ces dernières années, pendant ces 20 dernières années, avec ces images de femmes à la télévision, sur les plateaux de télévision, à la radio, allant à l'école, et la réalité de la vie pour la majorité des femmes dans ce pays.
Et dans les zones rurales en particulier.
Et dans les zones rurales en particulier. Il ne faut pas imaginer que les 20 dernières années ont été des années de paix. Pourtant, on parlait en Occident de reconstruction, de paix. Mais la réalité sur le terrain, c'est que la guerre avait lieu, que les talibans reprenaient aussi du terrain à cause des frustrations accumulées par une population qui s'est paupérisée pendant ces 20 dernières années à cause de cette guerre et à cause de cette reconstruction qui n'avait pas, en fait, pas vraiment lieu. Moi, je pourrais vous lire, en fait, des témoignages que j'ai récoltés pendant mon travail ethnographique de terrain dans les années 2000, de femmes qui disaient, à l'époque déjà, et on n'était pas sous les talibans, mon fils m'a dit qu'il allait se suicider si je travaillais, ou si mes sœurs, ou si ses sœurs allaient à l'école. D'autres qui me disaient, mon mari m'accuse de prostitution à chaque fois que je prends le taxi. Je pourrais vous raconter l'histoire de cette jeune femme, Farunda, qui a été assassinée en 2015 par une foule en colère en plein jour à Kaboul. Elle a été lynchée à la suite d'accusations mensongères de blasphème. Son assassinat a été diffusé sur les réseaux sociaux. Elle venait d'obtenir un diplôme en sciences islamiques à l'université de Kaboul. Elle s'apprêtait à occuper un poste d'enseignement et elle venait de se disputer avec un mollah devant une mosquée à Kaboul, car il y vendait des talismans aux femmes qu'elles considéraient, elles, comme des objets de superstition et contraires à l'islam. Et donc, le mollah a retourné l'accusation contre elle en prétendant qu'elle a été une infidèle, qu'elle avait brûlé les pages du Coran. Et donc, la foule s'est jetée sur elle, l'a lapidée, l'a piétinée, tandis que la police qui se trouvait à proximité a observé la scène sans intervenir. Là, on n'est pas sous les talibans, on est en 2015, on est à Kaboul, on est dans la capitale, dans le centre de ce que devait être la reconstruction, si vous voulez.
Il va de soi que personne n'a dit ici que la condition des femmes était correcte, même avant le retour des talibans. Il n'empêche, le retour au pouvoir de ces religieux a eu un impact concret et important sur le quotidien des femmes, en particulier sans doute en ville, et un impact sur leur avenir avec l'interdiction de l'accès à l'éducation. Belriz Jafari, cette décision prise le 23 mars de fermer les écoles alors même que les jeunes filles s'apprêtaient à faire leur rentrée, ça a été un choc particulièrement violent pour elles, non ?
Oui, tout à fait, exactement. En fait, je pense que maintenant, en Afghanistan, donc la population qui souffre le plus, donc ça, ce sont les femmes, parce que ce sont eux qui sont tout d'abord la cible des... de toutes les restrictions que les talibans imposent, et les priver de leur droit d'avoir accès à l'éducation, je pense que ça, c'est peut-être ça, c'est beaucoup plus, par exemple, violent et dur à soutenir que, par exemple, le port du tchador, le voile intégral, parce que pour répondre, donc, aussi compléter donc
les propos de Julie,
oui, exactement, de et ce que, donc, oui, on ne peut pas dire que donc, tout était parfait, donc vraiment une image très excellente de ces 20 dernières années en Afghanistan. Bien sûr, donc, il y avait beaucoup de manques. L'aide au développement d'Afghanistan, donc, avec la corruption, la grande corruption qui existait dans le pays et la discrimination, donc, cette aide au développement, vraiment, donc, les habitants, par exemple, de la zone rurale n'ont pas pu réjouir donc, de cette aide. Il y avait beaucoup de manque d'infrastructures, manque d'écoles, par exemple, la pauvreté, la violence quotidienne, les attentats, les expulsions.
Mais il y avait de l'espoir, peut-être.
Mais il y avait quand même, ça veut dire, il y avait cette liberté. Ça veut dire, l'accès à l'éducation était possible. Bien sûr, dans les zones contrôlées par les talibans, c'était impossible. Donc, on pouvait voir donc la grande ferveur, l'enthousiasme, le grand enthousiasme de la jeune génération, alors y compris les hommes et les femmes, en Afghanistan, d'apprendre, d'aller à l'école, donc de suivre différentes formations.
Donc, cette décision du 23 mars a été vraiment un coup dur.
Exactement, parce qu'il y avait une prise de conscience, à mon avis, il y avait une prise de conscience chez les femmes en Afghanistan. En Afghanistan, chez les jeunes, mais aussi les plus âgés, c'est que l'émancipation passe par l'éducation. Et donc, c'est pourquoi les mères, par exemple, qui sont analphabètes, et elles conseillaient, donc c'était elles qui encourageaient leurs filles d'aller à l'école, de continuer leurs études. Et donc, ça, je pense que donc là, l'émancipation, normalement, l'autonomisation des femmes passe par l'éducation. C'est pourquoi, au cours de ces 20 dernières années, les femmes ont regagné le droit à l'accès à l'éducation, comme cela a été privé donc, durant la première période des talibans. Et donc, elles ont pu être formées, elles sont formées, elles ont pu travailler. Donc, elles étaient présentes dans le marché du travail, même si plutôt dans les grandes villes. Et puis, donc, elles sont devenues donc, médecins, ingénieurs, artistes, journalistes. Et qui travaillait et aussi donc elle s'occupait des fonctions magistrature dans les médias, et donc on ne peut pas du tout les nier, même si ça représentait pas tout le pays, les zones surtout au sud du pays et à l'est, donc surtout contrôlées par les talibans, donc c'était beaucoup plus difficile, c'était plutôt les écoles primaires qui étaient ouvertes pour les filles, le collège était ouvert, mais il y avait peu de familles qui autorisaient leurs filles d'aller à l'école. Et moi, je pense que, par exemple, pour voir ce que les femmes ont gagné au cours de ces 20 ans, Pour moi, le grand espoir, c'était la jeune génération. Si on regardait le grand concours...
Celle qui est née après la chute du
exactement,
premier régime taliban.
Exactement, 2000. Donc là, quand on voyait, par exemple, le grand concours national chaque année pour intégrer les universités, il faut passer le grand concours national. Et ces dernières années, depuis 2015, ce sont les femmes, les jeunes filles, qui, voilà, les bachelières, qui sont au premier rang, la première personne. Par exemple, 2020, 2021. Et là, en 2020, c'était un... une jeune fille de Razni, Shamsia Alizada, dont le père est un ouvrier dans les mines au nord du pays. Et donc là, tout cela aussi, donc, ça montre, voilà, ça représente une partie de l'Afghanistan qui était vraiment désireuse de comment dirais-je, d'avancer, d'apprendre et puis de travailler et d'avoir une liberté.
Aujourd'hui, donc, de nombreux emplois sont devenus interdits aux femmes. Julie Billot, ça a des conséquences sur la situation économique du pays ?
Non, mais bien sûr, évidemment, c'est une catastrophe. Il ne faut pas comprendre mon propos comme étant celui de relativiser.
Je crois que personne n'a.
Ce qui est en train de se passer. Par contre, pour... ouais, non, pas du tout. Mais je veux clarifier ça. Et je pense qu'il faut quand même voir l'arrivée des talibans comme étant l'aboutissement, en fait, de développement qui au cours des 20 dernières années, ont vu, effectivement, certaines femmes pouvoir accéder à l'éducation.
On a très peu de temps. Alors, est-ce que la fermeture des emplois aux femmes, ça a des conséquences pour l'économie du pays ? Outre le fait que la communauté internationale n'aide plus l'Afghanistan.
Bien sûr, non, mais je pense que la pauvreté, elle est généralisée. Le fait que les femmes puissent plus effectivement travailler, ça va avoir des répercussions sur les familles, sachant d'autant plus que beaucoup de familles n'ont plus d'hommes, en fait, pour travailler. Donc, on se retrouve dans une situation où les familles qui sont simplement composées de femmes, parce que les maris sont partis, se sont exilés à l'étranger ou sont morts, etc., vont en souffrir particulièrement. Ça, c'est évident.
La conséquence de toutes ces mesures, c'est pour beaucoup la tentation de l'exil, l'envie de fuir, de quitter le pays. Belrais Jafari, c'est encore possible pour les Afghanes de se procurer un passeport, de prendre un avion, de venir dans un pays autre ?
Non, malheureusement, ce n'est plus possible. Déjà, pour se procurer un passeport, il faut aller sur le marché noir et ça coûte très, très cher. Donc, beaucoup de familles, normalement, avec cette situation, cette crise humanitaire, donc, ne sont pas capables. La grande question, c'est de pouvoir faire vivre la famille. Et donc, même celles, par exemple, qui veulent partir ou bien qui ont des bourses, par exemple, une admission dans des universités étrangères, elles ne peuvent plus partir seules. Ça veut dire qu'elles doivent être accompagnées par leur frère, leur père ou leur mari. Donc, comme ça, parce qu'il y avait aussi beaucoup de femmes, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi beaucoup de femmes, de jeunes femmes qui travaillaient en Afghanistan et qui n'avaient pas forcément, par exemple, un accompagnateur masculin. Beaucoup d'exilés afghans en Iran ou au Pakistan qui sont retournés en Afghanistan après 2001, dont les familles, la grande famille, restent toujours dans les pays voisins, mais les jeunes préféraient travailler, rester dans le pays. Et qui, voilà, donc là, ça complique complètement la situation. Et ça, c'est très, très difficile maintenant pour une femme, pour toute la population, mais surtout pour les femmes, de garder de l'espoir. Aujourd'hui, je parlais avec une amie qui est dentiste, qui travaillait avant la chute de Kaboul dans un clinique et c'était elle qui faisait vivre sa famille, ses parents, ses frères et sœurs. Et après, elle a été obligée de rester à la maison pendant plusieurs mois. Finalement, comme il y a un grand besoin, il a pu reprendre son travail. Mais avec beaucoup de crainte, parce qu'il y a les talibans qui interviennent, qui regardent, la police des morses qui contrôle. Donc chaque jour, il y a tellement de pression et puis de terreur. Et donc que ça rend vraiment insoutenable la vie. Et puis le port de burqa, donc ça, symboliquement, c'est très, très dur pour les femmes.
Vous-même, en 10 secondes, vous avez encore de l'espoir pour votre pays ?
Je garde l'espoir en ces générations, tous ces hommes et femmes qui combattent.
Merci Belrais Jafari, enseignante de langue persane à l'INALCO. Merci Julie Billot, anthropologue à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. Merci à Hélène Dutric-Rosset qui assurait la réalisation.